Vous êtes sur RTL.
Et le journal, c'est avec vous Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une, un peu plus de transparence au resto et à la cantine. Vous saurez tout sur l'origine des viandes.
Oui, mention obligatoire sur le menu et pas seulement pour le bœuf, car une fois sur deux, notre viande vient d'ailleurs. Une journée de grève et de manifestation pour les salaires. Côté transport, il ne devrait pas y avoir trop de perturbations. À suivre également, la loi sur le changement de nom votée cette nuit à l'Assemblée. L'obligation vaccinale pour les salariés, ça fait débat en Allemagne. Et puis les sports, nos handballeurs qualifiés pour les demi-finales de l'Euro après une victoire renversante face au Danemark. Et en football, Saint-Etienne qui gagne enfin.
RTL Matin.
C'est une petite révolution dans nos assiettes. On va enfin savoir ce qu'on mange.
Oui, à partir du 1er mars, les restaurants et les cantines devront obligatoirement afficher l'origine des viandes. Alors, c'était déjà le cas pour le bœuf. Ce sera le cas aussi pour la volaille, le porc, l'agneau. C'est pas rien, hein, car la moitié de la viande que nous mangeons est importée et les normes sanitaires ne sont pas toujours aussi strictes que chez nous. Alors, comment cette mesure est-elle accueillie par les restaurateurs? Pour le savoir, Samuel Goldschmidt, vous vous êtes promené dans la rue gourmande de Nancy.
Tous les restaurateurs ne sont pas encore au courant, mais l'idée séduit Antoine Ménétré, le chef du Syrah.
J'ai un petit poulet fermier.
Voilà. Vous pourrez afficher que votre poulet vient de Haute-Saône.
De Haute-Saône, ouais, d'un petit paysan. Je travaille un poulet fermier. De nos jours, je pense que le consommateur aime bien savoir ce qu'il mange et d'où ça vient. C'est aussi simple que ça.
C'est le cas dans cette adresse réputée pour ses burgers.
Pour certains clients, c'est quelque chose qui est important. Surtout que nous, on communique là-dessus, on travaille qu'avec de la race à viande. Je vous dis pas que ça concerne la majorité des clients, mais on en a quand même.
Et puis Olivier Freliger de la table de Bacchus a devancé l'appel depuis longtemps, comme montre son ardoise.
Filet de bœuf France, voilà, il y a origine Belgique, les riz de veau Union Européenne et France, et les barons d'agneau viennent de l'Union Européenne. C'est plus, je dirais, un souci de tranquillité et de traçabilité pour les unions de consommation que pour le consommateur final.
Le consommateur guette quand même cette petite mention.
Quand je veux prendre de la viande, je regarde quand même l'origine, oui. Ah bah quand c'est une viande française, c'est mieux. Mais j'ai déjà mangé de la viande provenant d'Argentine ou...
Ou d'ailleurs, bientôt, quelle que soit l'origine, elle devra être encore plus détaillée.
Un reportage RTL signé Samuel Goldschmidt.
Ce jeudi, Isabelle, est un jour de grève.
Oui, quatre syndicats et plusieurs organisations de jeunesse ont appelé à la mobilisation pour les salaires et pour l'emploi. Elles réclament notamment une hausse du SMIC et du point d'indice des fonctionnaires. Écoutez Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière.
Le salaire, un, c'est le pouvoir d'achat au quotidien. Quand il y a de l'inflation, et en particulier en ce moment, il faut répondre par une augmentation des salaires. Deux, le salaire, c'est le moyen de financer la solidarité collective, la sécurité sociale, les retraites en particulier. Et le salaire, c'est une revendication de justice sociale, de réparation des inégalités. Quand on est face à des augmentations records des dividendes versés aux actionnaires, quand on voit les indices boursiers qui flirtent à leur niveau record pendant la crise de la pandémie, il faut qu'on soit entendu à la fois des employeurs dans le secteur privé et du gouvernement pour ce qui est des fonctionnaires. Ça va être le premier quinquennat sans un seul geste sur l'indice de rémunération des fonctionnaires.
Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière au micro RTL d'Anaïs Bouissou. Les perturbations s'annoncent limitées dans les transports, mais ce sera un peu plus compliqué à l'école aujourd'hui. Environ 15% d'enseignants en grève dans le primaire et souvent aussi les personnels de la cantine. Des manifestations sont prévues dans toute la France. À Paris, le cortège partira vers 13h30 de Bastille pour rallier Bercy. À Brest, les transports en commun étaient à l'arrêt hier soir et ils le seront chaque soir après 20h jusqu'à nouvel ordre. Conséquence d'une série de violences urbaines hier soir, il s'agissait de tirs de mortiers d'artifice visant un tramway et un bus. On n'aura bientôt plus à subir sa carte d'identité. Les députés ont adopté cette nuit la proposition de loi qui permet de changer de nom une fois dans sa vie, sans justification, par simple déclaration en mairie. Ça concerne tous ceux qui portent le nom d'un parent qu'ils n'ont pas vraiment connu ou qui leur a causé du tort. Une loi de liberté saluée par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.
Pour une femme ou pour un homme d'ailleurs, qui a fait l'objet d'un viol de la part de son père, d'obtenir la modification du nom. Il faut des papiers, il faut aller raconter à l'administration des choses qui sont de l'ordre de l'indicible et qu'on n'a pas forcément envie de raconter. Est-ce que vous voulez entendre qu'un majeur a la liberté de choisir désormais, grâce à cette proposition de loi, et de se débarrasser d'un patronyme qui le fait souffrir? Ça ne va pas chambouler l'état civil français. C'est de l'ordre de 4000 demandes. La liberté de choisir. C'est pas plus compliqué que ça.
Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Emmanuel Macron a fait un geste fort hier en direction des harkis. À l'approche du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, le chef de l'État a reconnu deux massacres qui se sont produits après la signature des accords d'Évian et notamment la fusillade de la rue d'Isly à Alger. Des dizaines de partisans de l'Algérie française avaient été tués par l'armée. Un épisode impardonnable pour la République, ce sont les mots du président.
RTL 5h35, le feuilleton du crack à Paris continue. Les toxicomanes sont de nouveau déplacés.
De Stalingrad au Jardin des Halles, du Jardin à la Porte de la Villette, c'est là qu'ils étaient regroupés depuis fin septembre. Et puis voilà que la préfecture veut maintenant les envoyer dans le 12e arrondissement, sur une friche industrielle qui appartient à la SNCF. Une décision qui provoque la colère des habitants et des élus. Reportage RTL d'Hortense Crépin.
Il faut seulement parcourir quelques centaines de mètres depuis le futur site avant de tomber sur des commerces mais aussi une école.
C'est pas un bon exemple pour les enfants.
Cette maman a appris la nouvelle sur le groupe de conversation des parents d'élèves.
Dans le quartier vers lequel ils le mettent, il y a vraiment beaucoup d'enfants susceptibles de voir les gens consommer de la drogue.
Sur le nouvel emplacement qui devait accueillir un jardin culturel notamment, une clôture sécurisée doit être installée. Son sac de course dans les mains, Zoubir vit dans le quartier depuis plus de 10 ans.
C'est pas des animaux, c'est des êtres humains. Il faut les traiter comme des êtres humains. Ça sert à rien de faire des clôtures, etc. Ils vont sauter quand vous fumez au machin. La drogue, ça donne des idées, la drogue. Hein.
Et les riverains ne sont pas les seuls à avoir appris par surprise la décision de la préfecture. Pour les élus aussi, c'est l'incompréhension totale. Emmanuel Pierre-Marie, maire écologiste du 12e arrondissement.
Nous parlons de public en détresse pour lequel des solutions doivent être apportées, non pas un transfert d'un site à un autre qui n'a aucun sens.
Comme les riverains, l'élu réclame avant tout une prise en charge médicale pour les toxicomanes. Une réunion est prévue mardi entre la mairie de Paris et la préfecture.
Hortense Crépin dans le 12e arrondissement de Paris. Ce sont en quelque sorte les limites du pass sanitaire. Les gendarmes viennent de démanteler un vaste réseau de faussaires. Ils avaient usurpé l'identité numérique de 35 médecins. Ça leur a permis de créer près de 62 000 faux certificats de vaccination. 5 personnes ont été interpellées en Île-de-France et dans la région lyonnaise. Pinotech Moderna a officiellement commencé ses essais cliniques d'une dose de rappel de vaccin spécifique au variant Omicron. Le patron du labo l'avait annoncé la semaine dernière sur RTL. En Allemagne, les députés débattent en ce moment de l'obligation vaccinale pour les salariés. Une mesure radicale très discutée car il y a un énorme risque, hein, voir des millions de salariés démissionner ou interdits d'exercer. Léo Brouwer-Potier est allé à la rencontre de ses employés anti-vax à Berlin.
Opposé à la vaccination obligatoire, Michael est venu manifester à quelques centaines de mètres du Reichstag où les députés sont en train de débattre. Pour ce cinquantenaire, l'affaire est claire, même vacciné deux fois, il ne fera pas la troisième piqûre, même si la loi l'y oblige.
Je suis doublement vacciné et je dois quand même me faire tester trois fois dans la semaine. Si l'obligation vaccinale arrive, alors je devrais certainement quitter mon travail.
Donc pas de vaccination, même si ça vous fait perdre votre job ?
Oui, même si ça me fait perdre mon travail. J'essaierai de me trouver un autre boulot ou de me débrouiller autrement.
Selon les statistiques allemandes, ils sont 16 millions à ne pas être vaccinés du tout en Allemagne. Si l'obligation vaccinale demande 3 doses de vaccin, alors ce serait plus de 39 millions d'Allemands qui pourraient se retrouver en infraction par rapport à la loi. Yana est enseignante et non vaccinée.
Dans certains secteurs d'activité, ça va être très problématique. Je pense vraiment que l'on se tire une balle dans le pied avec de telles mesures.
Pour le moment, le débat sur l'obligation vaccinale amène plus de questions que de réponses en Allemagne.
Léo Brouwer-Potier à Berlin pour RTL.
Et puis, pas de doute, hein, Isabelle, nos handballeurs ont des tripes.
Ah oui, les Bleus pardon, se sont qualifiés pour les demi-finales de l'Euro hier soir en battant le Danemark 30-29. Une remontada historique. Ils étaient menés de 5 buts à 12 minutes de la fin. Ils affronteront la Suède demain pour une place en finale. En football, Saint-Etienne a stoppé la série noire. Après 7 défaites consécutives, les Verts ont enfin gagné hier à Angers 1-0. Première victoire pour le nouvel entraîneur Pascal Duprat.
C'est un soulagement, c'est une victoire, une première. Je crois qu'il y a 300 employés à la Saint-Etienne et il y a 42 000 sièges qui souvent sont garnis. Donc je pense qu'il y a toute une ville, tout un peuple qui a envie que la Saint-Etienne se sorte de ce mauvais pas. Donc je vais faire mon boulot. Et mon boulot, c'est d'être optimiste. C'est un tout petit bout du chemin qu'on a tous envie de faire. Ça nous permet de continuer à rêver.
Pascal Duprat au micro RTL de Philippe Audouin. Le chemin est encore long, hein. Malgré tout, les Stéphanois sont toujours l'antenne rouge. Et puis on connaît maintenant les porte-drapeaux de la France pour les Jeux Olympiques d'hiver qui s'ouvriront le 4 février à Pékin. Comme à Tokyo, ce sera un duo homme-femme, la skieuse Tessa Worley et le skieur freestyle Kevin Roland. Pour les Paralympiques au mois de mars, ce sera le biathlète Benjamin Davy.
Merci beaucoup Isabelle Choquet. Vous revenez à 7h30 tout à l'heure aux côtés d'Yves Kelvy. On sera aux États-Unis dans une minute pour RTL Autour du Monde. Au nouveau procès du meurtre de George Floyd, cet Afro-Américain mort lors d'une interpellation il y a un an et demi. Trois policiers sont jugés en ce moment pour n'avoir pas levé le petit doigt. On appellera Karine Hauten.